好干净，好干净。
Bonsoir et bienvenue à cette tribune de la presse du vendredi 18 juillet 2008. Nous analyserons au cours de cette émission quelques grands faits d'actualité ayant focalisé l'attention de la presse au cours de cette semaine. Il s'agit notamment de la fin de la visite du président Joseph Kabila en France du mercredi 16 au jeudi 17 juillet 2008, le retour mardi dernier du MLC et Allier dans les institutions tant nationales que provinciales, ce après une suspension d'une semaine suite à l'assassinat du député provincial Daniel Botetti, président de l'Assemblée provinciale de la ville de Kinshasa. Enfin, nous aborderons aussi la pétition que devait déposer en principe aujourd'hui vendredi auprès du chef de l'État ou de ses services, les syndicats indépendants de l'administration publique SIAP, pour cause de non-respect, d'après eux, par le gouvernement, de l'accord de Moody, la non-uniformisation des salaires dans tout le pays et la non-exécution à ce jour du budget de rémunération de l'État en 2007 et 2008. Pour donner de la perspective à tous ces thèmes d'actualité de la semaine, comme la semaine passée, nous faisons appel à une consoeur et deux confrères, Claudine Bombo, journaliste au sein du quotidien L'Observateur, Paris-France à Kinshasa, Thierry Lebika, rédacteur en chef de la chaîne de télévision Canal King, émettant en partie de Kinshasa, et André-Romain Kambala-Bilolo, journaliste au Kasaï Horizon Radio-Télévision, station de Chikapao Kasaï Occidental. Il intervient justement à partir de Chikapao Téléphone. La visite du chef de l'État congolais, Joseph Kabila en France, le retour du MLC et alliés dans les institutions, ainsi que la signature d'une pétition destinée au chef de l'État par les syndicats de la fonction publique, voilà quelques faits d'actualité abordés cette semaine par les journaux quinois. Notre confrère Denis Diboko, excusez-moi, a lu pour vous ces journaux et vous en fait le point dans cette revue de la presse.
En ce jour, à Paris, Joseph Kabila, des demandes tardives faites à la France, titre la tempête des tropiques dans sa publication du 17 juillet. Le quotidien du boulevard du 30 juin à Kinshasa explique qu'en 7 ans de règne, le chef de l'État congolais n'a attendu que l'invitation de Sarkozy pour demander l'aide à l'Hexagone en vue de réformer l'armée et fléchir le FMI. Kinshasa, Paris, Sarkozy dans la ligne du FMI rapporte l'avenir dans sa publication du 17 juillet. Le même quotidien souligne que selon l'agence France Presse, qui cite les sources de l'Élysée, Nicolas Sarkozy a promis à Joseph Kabila l'effort demandé, notamment l'allègement de la dette auprès du FMI. La dette devient ainsi la chaîne par laquelle on voudrait retenir la RDC, l'empêchant d'aller brouter plus loin que là où elle est attachée, conclut le confrère. À propos du retour du MLC et allié aux affaires, Le Phare a titré dans son édition du 16 juillet 2008 « Le MLC et alliés sont de retour dans les institutions ». Le quotidien de l'avenir, Colonel Lukusa, souligne que François Mamba, secrétaire général de ce parti, a indiqué à cette occasion qu'en ce qui concerne la sécurisation du quartier Macampagne, en attendant la délocalisation des éléments de la garde républicaine, des équipes mixtes et un poste de police ont été basés sur le lieu. Procès sur l'assassinat du vice-président de l'Assemblée provinciale Daniel Botetti, les partis politiques d'opposition se constituent en partie civile conformément aux lois de la République, conclut Le Phare. Après 9 jours de boycott de travaux parlementaires, l'opposition parlementaire reprend ses activités, rapporte la tempête des tropiques. Le retour aux affaires du groupe parlementaire de l'opposition n'est pas un fait du hasard. L'on se souviendra que lors de sa rencontre du 10 juillet 2008, le groupe parlementaire de l'opposition avait posé comme préalable pour revenir au Parlement de rencontrer les autorités politiques et militaires ayant dans leurs attributions la sécurité des personnes. Pétition des fonctionnaires de l'État, le quotidien L'Observateur, dans sa publication du mercredi 16 juillet 2008, titre, je cite, « Aujourd'hui, à la place Golgotha, signature solennelle d'une pétition par les syndicats indépendants de l'administration publique, SIAP en sigle. Selon notre confrère, plusieurs raisons sont à la base de cette pétition, notamment la situation relative à la non-exécution à ce jour du budget de rémunération de l'État 2007 et 2008 et la situation salariale confuse des enseignants.
Merci beaucoup, Denis Diboko. Nous passons directement à notre premier thème. Le président Joseph Kabila a terminé hier jeudi sa visite de 2 jours en France à l'invitation du chef de l'État français, Nicolas Sarkozy. Notre confrère Guy Maté avait contacté en France l'ambassadeur itinérant du chef de l'État, Séraphin Gouège, qui faisait partie de la délégation de ce dernier. Écoutons le bilan qu'il fait de ce voyage.
Les deux chefs d'État ont abordé des questions liées à la sécurité et à la paix. Là-dessus, ils ont abordé la question liée à l'accompagnement du programme Amani, issu des engagements de Goma, du processus de Nairobi, issu des engagements de la RDC, un pays de la région. Ils ont également abordé la question liée à la réforme du secteur de sécurité. Les deux chefs d'État ont également planché sur des questions liées à l'économie, comme par exemple la question en rapport avec l'allègement de la dette de la République démocratique du Congo, le point d'achèvement avec le Fonds monétaire international.
Monsieur l'ambassadeur, certaines dépêches ont affirmé hier que le chef de l'État français avait souligné qu'on ne pouvait pas à la fois du côté congolais solliciter des nouveaux prêts et sans tenir compte de la nécessité de se désendetter par ailleurs. Confirmez-vous ces propos du président Sarkozy?
Non, je dis tout de suite que c'est une aberration grave et c'est dommage de prêter de tels propos au président Sarkozy qui a répété à plus de 3 reprises son engagement à accompagner le gouvernement congolais dans toutes les options que le gouvernement a arrêtées. Je dis et confirme que le président de la République française, il a souligné la pertinence et la légitimité pour la République démocratique du Congo d'avoir signé ces accords-là. Il a souligné son engagement à accompagner la République démocratique du Congo dans le plaidoyer au niveau du Club de Paris pour obtenir une compréhension constructive de cette problématique en vue non seulement de la résolution de la dette, mais aussi d'accompagner les efforts du gouvernement de la RDC au point d'achèvement avec le Fonds monétaire international.
Claudine Bombo, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes journaliste au sein du quotidien L'Observatoire, par exemple, ici à Kinshasa. Quels sont d'après vous les résultats de cette rencontre Joseph Kabila, Nicolas Sarkozy?
Bon, je pense qu'on devient de plus en plus pessimiste quant aux promesses de grandes puissances. Et je me dis, attendons voir la réalisation de toutes ces promesses-là. Parce que je me dis, celui qui est à la tête de FMI aujourd'hui, les Français, et quand nous allons demander à la France de nous aider pour qu'on puisse alléger l'endettement, et vous savez la position de FMI à propos de de contrat avec les Chinois. Je me demande si réellement nous pouvons attendre grand chose de la France.
Vous pensez que la RDC a sollicité Nicolas Sarkozy tout simplement parce que il y a un Français qui se trouve à la tête du Fonds monétaire international?
Ça peut être l'une des raisons. Ça peut être l'une des raisons et Nicolas Sarkozy ne peut pas décevoir celui qui est à la tête de FMI. Et je pense qu'il ira dans la même ligne que ce qu'exige le FMI pour la RDC.
Merci beaucoup Claudine Bombo. Thierry Lebica, bonsoir.
Bonsoir Claude.
Vous êtes rédacteur en chef de la chaîne de télévision Canal Kin, émettant à partir de Kinshasa. Et vous êtes proche du MLC. Claudine, j'ai oublié de le dire, votre journal est proche de l'AMP. C'est juste pour situer nos auditeurs. Voilà, quel bilan faites-vous du voyage du chef de l'État en France, Thierry?
Bon, c'est pas facile de faire un bilan comme ça. Je dis mi figue mi raisin, mais j'aurais voulu que le chef de l'État rentre ici à Kinshasa avec des choses du genre Airbus A380, hein, des TGV, la construction par le français des universités, des choses comme ça. Là, au moins, je pourrais parler d'un bilan positif ou négatif ou quoi. Mais bon, c'est plus du discours que des actions. Hein, cela me laisse un peu perplexe. Mais ce que je voulais dire, c'est quoi? C'est que la tendance ici en République démocratique du Congo, c'est la personnalisation de tous les débats. Je ne voudrais pas parler de l'homme Joseph Kabila Kabange ni de l'homme Sarkozy. On est d'accord que les deux hommes représentent deux États. Il s'agit de la France et de la République démocratique du Congo. Il faut plutôt parler de ce que la République démocratique du Congo a gagné à travers ce voyage. Et ça, je dis, on n'a pratiquement rien gagné. Hein, le débat actuel autour des hommes, ça ne m'intéresse pas trop. Parce que on ne gagne pas pas trop. Et puis, ce que je dis, c'est que si on était un grand État, peut-être qu'on aurait invité le chef de l'État deux jours avant, ce serait les 14. Hein. Les 14, on a vu un grand ballet diplomatique. Je ne vais pas parler des hommes, je parle des États.
Mais c'est les chefs d'État qui avaient participé à la réunion sur la création de l'Union pour le Maghreb.
Cela n'est pas une raison pour qu'on n'invite pas le 14. Hein. On aurait pu l'inviter 14 le matin, il participe à la fête nationale de la France. Ça aurait été une grande occasion, même pour la République démocratique du Congo, de voir son drapeau hissé à cette occasion, et pourquoi pas à notre président Joseph Kabila Kabange de rencontrer d'autres de ses homologues des grands pays du monde qui étaient ce jour-là en France. Ça, je regrette un peu. Bon, le reste, ce n'est qu'un débat de politique. Hein.
Merci beaucoup, Thierry. Rendons-nous directement à Tshikapa, d'où intervient notre confrère Romain Kambala-Bilodo. Bonsoir, Romain.
Bonsoir Claude, bonsoir.
Vous êtes journaliste au sein de Kasaï Horizon Radio Télévision, une station de Tshikapa au Kasaï occidental d'où vous intervenez. Quelle lecture faites-vous en ce qui concerne les résultats qu'a obtenu le chef de l'État suite à sa rencontre avec le chef de l'État français?
Oui, trop de promesses, c'est vrai. Ce sont des résultats à prendre avec beaucoup plus de réserve. Dans la mesure où nous savons ce qui se passe dans la Troïka, dans l'Union européenne, par rapport aux pays africains, pourquoi pas à la République démocratique du Congo. Je le dis comme l'a dit la consoeur Claudine, nous ne devons pas rester trop pessimistes pour dire écoutez, mais vouloir attendre de la France par la bouche de Nicolas Sarkozy qu'il va plaider que c'est pas pour l'allègement de la dette, quand hier c'est Dominique Strauss-Kahn qui semblait être présenté une face n'est pas très correcte à la République démocratique du Congo par rapport à son engagement avec la Chine. Je me dis que là, les Congolais qui disent que ces contacts, et surtout par rapport à l'allègement, ça donnera de bons résultats, mais je me dis il faut mettre un peu du temps encore. Pourquoi? Parce que si on connaît mieux l'histoire, c'est lui qui a fait à ce qu'aujourd'hui Dominique Strauss-Kahn soit à la présidence du Fonds monétaire international, c'est l'actuel Nicolas Sarkozy. Il s'est battu gris et ongles pour faire tomber le Russe qui était candidat comme Dominique Strauss-Kahn. Alors je me dis, hier, c'est Dominique Strauss-Kahn qui dit qu'il n'est pas favorable à l'allègement ou à une nouvelle signature avec la RDC par rapport à des fonds au Fonds monétaire international, et aujourd'hui on passe par son parrain, Nicolas Sarkozy, pour lui dire, écoutez, allez auprès de Dominique Strauss-Kahn, plaidez notre cause. Je sens que c'est pas tellement espéré. Mais, en tant que Congolais, qu'est-ce qu'on peut dire? Il y a eu des contacts souverains, des contacts de grands hommes d'État, à la hauteur de notre président. Et ici, je préfère rejoindre Thierry qui a dit, il ne faut pas que nous pensions en termes d'homme pour dire président de la République, président de la République, mais parlons en termes Congo-France. Qu'est-ce que l'un peut attendre de l'autre? Voilà. Bon. Les résultats, nous les prenons moitié-moitié. Ils peuvent s'accomplir, tout comme ils ne peuvent pas s'accomplir, c'est le temps de voir d'abord comment se fera le post-évaluation ou post-discussion. Ils vont discuter sur vrai, mais le poste, comment ça va se faire?
Merci beaucoup. Donc, je retiens que vous dites qu'il y a trop de promesses, les résultats sont à prendre avec des pincettes, il faudra encore attendre. Et j'ai sous mes yeux quelques journaux chinois de ce vendredi. Il y a notamment L'Avenir qui titre « Au regard des objectifs fixés, Joseph Kabila à Paris, un succès éclatant ». J'ai également sous mes yeux le journal Le Phare, proche de l'opposition, et à la une, on peut lire à cause des non-dits des contrats chinois, le double message de Sarkozy à Kabila. Nous avons également le journal L'Observateur, qui est proche de la majorité, et à la une, on peut lire, disons comme titre de son éditorial, en RDC, la France cède elle-même. Et j'ai également sous mes yeux la tempête du tropique de ce vendredi qui titre à la une « Bilan du séjour d'affaires de Joseph Kabila à Paris, pas de caution aux cinq chantiers. Satisfaction à Kinshasa pendant que les préoccupations soulevées par le chef de l'État sont encore sous examen en France, je me tourne directement vers vous, Claudine Bombo, lorsqu'on lit les différents titres de ces journaux, on a l'impression que ce voyage, l'entretien Joseph Kabila Sarkozy a pu tourner autour des contrats chinois.
Exactement, exactement, parce que là, vous voyez que tout tourne autour du contrat chinois. On veut négocier, mais on vous ramène au contrat chinois. Pour vous dire, nous avons imposé quelque chose, ou bien nous avons proposé quelque chose par rapport à ces contrats avant de vous aider. Nous avons posé nos prérogatives. Qu'en dites-vous?
Apparemment, l'ambassadeur général du chef de l'État a démenti ce que certaines agences de presse avaient déclaré en disant que Joseph Kabila, qui sollicitait en fait l'intervention du président Sarkozy pour qu'il intervienne auprès du FMI pour réduire la dette congolaise, le président Sarkozy l'aurait répondu en disant que vous devez d'abord penser à vous désendetter avant de solliciter une aide de la France.
Bon, je constate avec
stupéfaction.
Qui dit vrai? Oui, qui dit vrai dans cette histoire?
Les agents de presse, c'est la délégation du chef de l'État.
Qui dit vrai, on ne sait pas. Mais il y a un problème. Je pense que la cour de la présidence doit savoir que les États ne travaillent qu'en fonction des intérêts. Ils ne travaillent qu'en fonction des intérêts. Et le moment est arrivé où, si vraiment il y a promesse, si la France a promis quelque chose parce qu'ils ont dit qu'ils vont venir, ils sont plus intéressés pour l'uranium congolais, c'est le moment de savoir comment négocier. Il ne faut pas toujours se laisser duper dans ces genres de contrats.
Comme quoi le Congo négocie souvent mal et il se rend compte par après que non, c'est un contrat de
l'uranium. Voilà, il négocie toujours mal, il négocie en position de faiblesse et après on veut réviser les contrats et vous savez, et la foi qui tourne autour de ces contrats. On veut toujours réviser les contrats. On négocie d'abord, on négocie mal en position de faiblesse, on revient pour revoir les contrats. Et là, ça ne marche pas. C'est vraiment de la foi à ce sujet.
Merci beaucoup, Claudine. Thierry, sur le plan économique, le chef de l'État congolais a rencontré quelques représentants des entreprises françaises qui sont des gens RDC comme Perrin Corret, qui exploitent déjà le pétrole à Rwanda, ou qui veulent y investir comme Areva, à laquelle société Claudine Bombo venait de faire allusion, qui s'intéresse à l'uranium congolais. Est-ce le retour des grandes entreprises françaises en RDC?
Je ne crois pas trop qu'il y aura une vraie humaine française ici en République démocratique du Congo, tout simplement parce que les conditions ne sont pas encore en place pour qu'il y ait de gros investisseurs. Je veux dire quoi? Je veux dire que c'est beau de partir en France pour aller voir Nicolas Sarkozy, pour aller voir je ne sais qui là, et espérer beaucoup. Mais il faut aussi, en amont, faire du travail. Et ce travail-là n'est pas bien fait.
C'est-à-dire?
En République démocratique du Congo, il ne faut pas attendre que l'autre période de Google vienne vous rappeler que nous sommes l'un des pays les plus corrompus au monde. Faut pas attendre d'un Belge, nous le savons tous, même s'il y a des gens qui veulent, pour des raisons politiques, dire n'importe quoi. Ça, c'est une chose. Deuxième chose, les garanties juridiques. Dans ces pays, là, on peut être arrêté aujourd'hui n'importe comment, on peut investir de l'argent aujourd'hui et plus tard le perdre. Ça, c'est très important. L'insécurité. On en parlera au cours de cette émission. Quel est ces blancs qui peuvent prendre le risque de se retrouver à ma campagne à 1h du matin? Non, ces investisseurs-là, ce ne sont pas tous des prêtres. Ils viennent, ils investissent chez nous, mais ils ont aussi des dimanches pour aller à Kinkole s'amuser et tout ça. Si vous les invitez ici pour qu'ils investissent et plus tard pour qu'ils meurent, c'est compliqué, ils ne viendront pas. Donc, en amont, avant que l'État aille en France voir Sarkozy ou qui, il y a du travail à faire et ça, c'est faisable.
Mais est-ce que ce voyage n'est quand même pas important, d'autant plus que le président Sarkozy va présider pendant 6 mois l'Union européenne, c'est la France qui préside l'Union européenne pendant 6 mois. Est-ce que, en le recevant comme ça, est-ce que ça cela ne donne pas quand même une certaine, je ne sais pas, c'est pas une légitimité du pouvoir actuel, mais sinon un appui de l'Union européenne au gouvernement que préside Joseph Kabila?
Cette question, il faut la poser arrivé à ça, au Capi, la poser à Célestin Gouache, l'ambassadeur général, mais il fallait plutôt la poser à un conseil. Moi, je prends en compte la position de l'AFP. Pourquoi? Parce que, à quelque part, on fait beaucoup de discussions, mais on oublie que c'est Sarkozy qui a invité le président Kabila. Et il a invité à quelle occasion? À l'occasion de la visite de M. Jean-Louis Borloo, mais c'est un conseil à l'écologie. Il a réaffirmé l'invitation avec Mme Ramayad. Il s'occupe de quoi les deux personnes? Borloo s'occupe de l'environnement et Yad s'occupe de droits de l'homme. Peut-être que dans la tête de Sarkozy, il voulait parler avec des chefs d'État congolais de questions liées à l'environnement. Ça, c'est très important.
C'est vous qui l'avez dit.
Nous, Congo démocratique, parce qu'il a fait de la bouche de Jean-Louis Borloo qui s'occupe de l'environnement. Nous, Congo démocratique, nous sommes un pays potentiellement riche. Et j'ai suivi ce matin un journal burkinabé qui disait qu'il est malheureux que le président Kabila aille voir le président Sarkozy pour demander peut-être un service à DSK, Strauss-Kahn, pendant que nous sommes extrêmement riches, ces pays. Bon, ça fait mal, hein.
Il a répondu à une invitation.
À une invitation, tout simplement. Mais c'est lui qui devait dire ce qui attendait de Kabila, c'est plutôt Sarkozy.
Merci beaucoup. Donc, on va terminer avec ce dossier avec André Romain Kambala. Je rappelle que vous intervenez à partir de Chikapa et vous êtes de Kasaï Horizon Radio-Télévision. Peut-être placer un mot vraiment rapidement en 30 secondes pour que nous puissions clôturer ce dossier.
Oui, ce que je peux dire en 30 secondes, c'est ceci. C'est vrai que le président a fait ce qu'il peut faire. Les bonnes relations entre deux pays, c'est normal. La coopération multilatérale, bilatérale, c'est vrai. Mais ici, nous ne devrions pas y aller en faiblesse, car vous savez bien, comme on le dit, la main qui donne est au-dessus de celle qui reçoit. C'est de l'aide qu'on va donner, c'est toute cette plaidoirie qu'on va faire pour nous, mais qui rendra encore le Congo beaucoup plus faible qu'il l'a été.
Vous voulez dire par là que donc la RDC, comme la plupart des pays africains, est allée tendre la main?
Bon, ça, c'est pas à refuter. Qu'est-ce que le président est allé faire auprès du président français? C'est comme l'a dit que Thierry, c'est juste peut-être appuyer sur le président français pour qu'il pèse sur Dominique Strauss-Kahn, de sorte que la situation soit décapée de notre côté.
Mais il a répondu à une invitation, non?
Oui.
Il a répondu à une invitation, il n'a fait que répondre à une invitation.
Oui, tout à fait, il a répondu à une invitation, mais à la à cette invitation, quel a été son agenda? Voilà le problème qu'il a posé. Et dans l'analyse du problème qu'il a posé, on sent que nous sommes partis là-bas avec une situation de faiblesse et nous sommes en train de demander le renfort, mais plus fort, voilà.
Merci beaucoup, donc c'est avec vous qu'on termine ce premier thème. Comme nous le disions dans le sommaire, le MLC et ses alliés sont revenus dans les institutions parlementaires, tant au niveau du Sénat et de l'Assemblée nationale qu'au niveau des assemblées provinciales. Le secrétaire général du MLC et président du groupe parlementaire de ce parti à l'Assemblée nationale l'a annoncé après la rencontre du lundi 14 juillet dernier avec les ministres de la Défense et celui de l'Intérieur. L'opposition estime que des réponses ont été apportées à ces revendications. Notre confrère Jeff Ngoy était sur place et il a recueilli la déclaration du secrétaire général du MLC, François Mamba, annonçant le retour de l'opposition dans les institutions. Suivons-le.
En ce qui concerne le procès, les partis politiques de l'opposition se constituent partis civils par le biais de leurs avocats afin de veiller à ce que les véritables auteurs soient jugés et sanctionnés conformément aux lois de la République. L'opposition politique met en place un comité de suivi chargé de veiller à la bonne exécution des mesures envisagées et en cours prises par le gouvernement. L'opposition politique décide, par conséquent, de reprendre les activités parlementaires tant au niveau national qu'au niveau de la ville-province de Kinshasa. Toutefois, l'opposition se réserve le droit de recourir à toute mesure ou forme de contestation légale au cas où les engagements pris ne sont pas tenus.
Voilà, donc nous commençons avec vous Thierry Lebita. Je vous rappelle que vous êtes rédacteur en chef de la chaîne de télévision Canal Kin, émettant partout de Kinshasa, Canal Kin qui est proche du mouvement de libération du Congo MLC. Mais avant de passer à vous, nous allons également suivre le point de vue d'un député national de la majorité au pouvoir. Le retour de l'opposition s'inscrit dans l'ordre normal des choses. Cependant, l'absence de celle-ci n'a pas réussi à bloquer le fonctionnement du Parlement, où trois lois sur la décentralisation ont été adoptées. Ce sont là les propos de l'honorable Albert Fabrice Pouella, député national de l'Alliance pour le renouveau du Congo, ARC, membre de l'Alliance de la majorité présidentielle, ANP. Il est au téléphone de notre confrère Anselme Sissimon Béré.
contrairement à l'institution président de la République, lorsque l'institution Assemblée nationale, comme même un peu le gouvernement, enfin, le gouvernement peut parfois agir par son premier ministre, mais à l'Assemblée nationale, c'est la plénière, ce sont des décisions que nous prenons ensemble. Et nous savons, dans cet ensemble, c'est le quorum. Quand le quorum est atteint, lorsque la décision est prise en bonne et due forme, selon la Constitution et selon les règlements intérieurs qui régissent notre Chambre parlementaire, la décision passe, qu'il y ait l'opposition ou pas. En tout cas, ces décisions sont légales et légitimes, elles sont valables. Il n'y a pas une quelconque remise en cause. Il est quand même un peu déplorable que pendant cette absence, des décisions importantes aient été prises, parce que figurez-vous, la machine ne s'était pas arrêtée pour autant. Ils sont partis et des lois importantes comme celles qui devront régir la décentralisation, attendez la libre administration de province, la conférence des gouverneurs et la loi portant organisation fonctionnement des entités territoriales décentralisées ont été votées sans eux, voyez-vous. Il aurait été nécessaire qu'ils fissent là. Et...
Thierry Lebiga, vous êtes de Canal King. Comment vous interprétez ce retour du MLC et ses alliés dans les institutions? Est-ce que finalement l'opposition ne sort pas fragilisée de cette crise quand on sait qu'une partie de cette opposition a continué à participer aux travaux de l'Assemblée nationale comme le GPCD de Kyakwama?
Avant de répondre à votre question, je voudrais réagir un peu à ce que vous venez de dire là, les députés plurales que je connais. Non, ce genre de discours-là, c'est pas un bon discours pour construire une vraie démocratie. Il semble ne pas comprendre ce que voulait dire l'opposition à travers ce boycott. La volonté n'était pas celle de faire que la machine soit bloquée. Non, les gens du MLC connaissent le chiffre, hein, ils savent qu'il y a toujours 50 députés de la majorité qui sortent ou pas, le quorum serait atteint. Ce n'est pas bien de tenir de tels propos. Pourquoi? Parce que c'est ce que beaucoup reprochent à la majorité, c'est côté-là suffisant. Hein. Nous sommes là, nous avons la majorité, que le gouvernement marche mal ou pas, il restera toujours en place.
Mais il a déploré quand même l'absence de l'opposition, alors que des lois importantes,
c'est la responsabilisation. Le plus important, c'était quoi? Que la machine n'a pas été bloquée.
Puis vous
c'est un comportement antidémocratique. Bon, j'en arrive à votre question. Comment j'interprète ce boycott?
L'opposition ne sort pas fragilisée?
Oui. C'est le début de la démocratie. Le boycott, c'est l'une de voies reconnues dans la démocratie pour exprimer ce que l'on pense. Ce qui est arrivé de l'aide de qui était très déplorable, et il y avait plusieurs façons de réagir face à ces drames. L'opposition avait fait le choix de boycotter. Je suis d'accord avec eux qu'il fallait faire quelque chose. Mais deuxièmement, fragilisé ou pas, je me dis pas tellement fragilisé parce que la majorité mécanique dont parle l'honorable Paul existe. Hein, donc, quoi que passe l'opposition, il y a une majorité. Mais pour une fois, je ne suis pas trop d'accord avec l'opposition. Il fallait rester dehors un peu pour voir jusqu'où allait partir le gouvernement dans la recherche de la sécurité pour tout le monde de ma campagne et aussi de l'ensemble du pays.
Thierry Lebiga, est-ce que vous pensez, est-ce que disons en utilisant le boycott des séances au niveau parlementaire, est-ce que l'opposition ne risque pas de souffler cette méthode comme ce fut le cas avec les fameuses villes mortes?
Non, j'ai entendu de la bouche du secrétaire général du MSF en son mandat qu'ils vont observer et prendront d'autres mesures. J'ai peur qu'un jour, que les députés de l'opposition disent « nous sortons du pain pour toujours ». Vous voyez, qu'est-ce qui nous restera comme démocratie? Déjà maintenant, beaucoup se plaignent de l'allure où vont le jour de l'Assemblée nationale. Il y a plusieurs recommandations qui faites, le gouvernement ne l'applique pas. Et les jours où les députés de l'opposition diront que nous ne participerons plus jamais, bon, notre député continuera de parler.
Ils sont quand même rentrés à la veille des vacances parlementaires. Ils doivent recevoir des prêts pour aller en vacances aussi.
Non, je dis, ce n'est pas une question d'argent. Beaucoup en ont parlé parce que j'estime que qu'ils soient là ou pas, leur dû, ils allaient se le prendre. Mais ne prenez pas la légèreté que les députés de l'opposition ont fait. Pourquoi? Parce que le lundi déjà, ils ont pris la décision un soir du dimanche, j'oublie les dates, Vital Kamiri et King Wadon ont convoqué les députés de l'opposition pour dire nous sommes avec vous. C'est dire que le message est passé. C'est plutôt des députés que des députés de l'AMP qui sont amplement suffisants, qui se disent non, qu'ils partent ou pas, nous serons toujours là. Mais les jours qui ne seront pas là, la démocratie qui est déjà moindre là, elle sera au niveau zéro. Au niveau zéro.
Donc les garanties données par le gouvernement, les garanties sécuritaires ont vraiment contenté et satisfait les MLC et ses alliés.
ils ont été contentés. Moi, à leur place, je ne les ferai pas. Ils ont été contentés. Mais quand même, pour construire ces pays, il faut que chacun mette un peu d'eau dans son vin. Ceux du MS de Poisson l'ont fait, c'est une bonne chose. J'ai été à ma campagne, au Palais des Marbres. J'ai vu qu'il y a moins de présence militaire maintenant. Il y a maintenant des jeeps policières. C'est quelque chose, mais est-ce que cela a été suffisant pour rentrer? Je pense que non. Il fallait attendre encore un peu parce qu'il y a encore beaucoup de choses à dire. Hein. La garde républicaine est encore à Kinkolé, au Bitsungubila, partout là. Ce sont des choses qu'on peut, sur lesquelles on peut revenir plus tard.
Merci beaucoup, Thierry. Allons directement à Tchikapa, d'où intervient notre compère André Romain Kambala Bilolo de KGRP, station de Tchikapa. Mais on a entendu aussi certains Congolais et même certains analystes dire que mais pourquoi le MLC a réagi de la sorte après la mort d'un de ses députés provinciaux, alors qu'à l'intérieur du pays, continuait à mourir, à être violé, parfois être enlevé par des groupes d'armées, beaucoup de Congolais. Comment vous interprétez cela?
Oui, c'est vrai. La réaction est normale et c'est permis à tout un chacun de pouvoir réagir comme il entend. Mais moi, je dis ici, nous devons donner raison au MLC. Par rapport à ce qui s'est passé, la mort de Daniel Boutiki, on ne devait pas, ce n'est pas le MLC qui doit dire quoi, qui doit s'intéresser, qui doit prendre des décisions par rapport à la mort à l'intérieur du pays. Pourquoi on a toutes ces chaînes de sécurité? Là, on ne doit pas mettre sur le dos du MLC pour que le MLC réagisse par rapport à la mort dans la province orientale, à Nistouri, à Goma et partout ailleurs. Non. Ça, là, je le dis, ils peuvent, en tant que députés, introduire des motions, qu'on interpelle un tel et tel, qu'on entende pour susciter le gouvernement à prendre des décisions. Mais ici, c'est une mort qui a frappé à la porte du MLC directement. Daniel Boutiki était député du MLC. Et à cette occasion, tant que l'assassinat s'est passé dans la capitale, je le dis et je le reprends, s'est passé dans la capitale où tous les services, toute la sécurité, toutes les institutions s'y retrouvent, je crois la meilleure façon de faire, c'était de sortir des institutions pour exiger à ceux qui prennent les décisions de pouvoir agir le plus vite possible. Et ici aussi, je voudrais rejoindre Thierry dans ce qu'il a dit, c'est que le député de l'AMP venait de dire... ça traduit vraiment un dénigrement à l'endroit des amis. C'est pas vrai.
Ça, c'est un dénigrement sur vous-même, hein.
Moi-même, je le dis bien, c'est un dénigrement. C'est un manque
de respect. Je dis, on n'est pas d'accord, hein. Il est en train de juger la paix.
C'est sa position à elle. J'ai dit, là, il a manqué. Parce que, question de la mort, aujourd'hui, c'est l'équipe du MLC, je l'ai dit, la fois passée. On ne sait pas à qui le prochain tour, si la machine, si cette chaîne continue.
Merci beaucoup.
Et alors?
Oui, terminez votre
phrase. Oui, tout à fait. Je disais aujourd'hui, c'est comme qui disait, on a eu une mémoire courte. Pour voir comment les choses se font. On se font très bien, on dit, nous sommes de la majorité. Quand nous sommes de la majorité, les autres peuvent mourir et la machine continuera comme il a dit. Non, c'est pas un problème de machine.
Merci beaucoup.
Mais c'est un problème d'abord.
Oui, terminez votre phrase rapidement, s'il vous plaît. C'est un problème de quoi?
Okay. C'est pas un problème de machine, mais c'est un problème de conscience et de la dignité humaine.
Merci beaucoup.
C'est la première chose regrettée.
Merci beaucoup, Claudine Momo.
Non, je pense que les amis n'ont pas bien suivi les députés. Au contraire, ils déplorent l'absence de l'opposition à l'hémicycle du Palais du Peuple. Ils se disent, il fallait que l'opposition soit aussi là au moment où on est en train de voter des lois aussi importantes. Il ne fait pas la gueule, il n'est pas orgueilleux. Au contraire, il regrette cette absence-là parce que la politique de la chaise vide n'a jamais payé.
Claudine, mais dans le procès, justement, c'est relatif quand même au thème que nous abordons. Dans le procès sur l'assassinat du président de l'Assemblée nationale provinciale, Daniel Boutiki, l'un des accusés a déclaré hier que cet assassinat avait été commandité par l'un des hommes politiques qu'il allait citer le nom. Nous, on ne va pas citer le nom ici, mais comment réagissez-vous face à ce rebondissement alors que beaucoup de gens disaient que c'était un crime crapuleux, c'était pas un assassinat politique?
Non, c'est quand même trop facile. Là, c'est trop facile. Je pense qu'il y a beaucoup des choses qui se passent dans ces pays. Et je ne vois pas pour quel intérêt on veut tuer ces députés-là qui ne faisaient pas trop de bruit. On l'avait dit dans une émission
précédente. Ils pouvaient ne pas faire du bruit, mais peut-être qu'ils gênaient aussi dans son travail.
Je ne pense pas. En tout cas, si on arrive à citer quelqu'un d'autre, je pense que ça sera un règlement politique d'ailleurs, et on veut seulement utiliser les prévenus qui veulent citer les commanditaires. Je ne pense pas. Je pense que le monsieur, comme Thierry l'avait dit l'autre fois, s'est trouvé à un mauvais endroit au mauvais moment.
Vous êtes satisfait que le MLC et Alliés retourne dans les institutions du pays?
Et justement, nous sommes contents qu'il soit retourné. Je pense que notre démocratie est encore jeune et quand il y a négociation et que les uns et les autres mettent un peu de l'eau dans leur vin, je pense que c'est une bonne chose et nous devons aller de l'avant. Mais il faut quand même saluer la volonté du gouvernement. Il y a quand même des gestes, il y a eu déjà des signes qui ne trompent pas, qui montrent que le gouvernement écoute de temps en temps ces citoyens.
Mais il faut que cette délocalisation des militaires se passe aussi à l'intérieur du pays. Ce n'est pas seulement
à Kinshasa. C'est un processus, nous devons y aller lentement.
Merci beaucoup, Kéline Mbombo. Donc, nous passons directement à notre troisième et dernier thème de ce soir, que la pétition que devait en principe déposer aujourd'hui, vendredi, auprès du chef de l'État ou de ses services, les syndicats indépendants de l'administration publique, SIAP. Ils reprochent au gouvernement congolais de ne pas avoir respecté ses engagements, à savoir le barème de Mboudi, l'uniformisation du salaire pour tous les agents et fonctionnaires de l'État à travers le pays, ainsi que la non-exécution à ce jour du budget de rémunération de l'État en 2016 et 2008. Écoutons à ce sujet le secrétaire général du syndicat national des enseignants des écoles catholiques, Jean Bosco Puna. Il est au micro de notre conseiller Nadine Poula.
Le clou de la manifestation, c'est la pétition que les agents et fonctionnaires de l'État adressent à son excellence, monsieur le président de la République démocratique du Congo, parce qu'il est le chef de l'État. Ne laissera pas des agents et fonctionnaires de l'État qui lui ont placé confiance à continuer à vivre dans cette misère. Jusqu'à ce jour, les budgets de l'État 2007-2008 n'ont jamais été appliqués en faveur des agents et fonctionnaires de l'État. Alors, tout à l'heure, là, nous terminons la signature solennelle et nous allons nous amener vers le palais de la nation pour déposer officiellement cette pétition. Et nous donnons un délai jusqu'au 29 août, nous reviendrons ici, la place Golgotha pour évaluer si les aspirations des agents et fonctionnaires de l'État sont prises en compte, ce que nous souhaitons d'ailleurs. Si ces pétitions ne produisent pas d'effet, eh bien nous reviendrons pour une prise de décision.
Merci beaucoup. Donc, abordé à ce sujet par Radio Capi, le ministre de la fonction publique, Laurent Simon Ikengue, se dit être indigné et surpris d'apprendre que les syndicats de l'administration publique s'apprêtaient à déposer une pétition auprès du chef de l'État. Selon lui, il y a vite une procédure. Ces syndicats devraient d'abord informer le ministère de tutelle, à l'occurrence celui de la fonction publique, et si aucune solution n'est trouvée, c'est alors qu'ils pouvaient contacter le Premier ministre au lieu de passer directement chez les chefs de l'État. Qu'est-ce que vous en pensez, Thierry Lébica?
Non, je pense que nos amis syndicalistes ont complètement raison d'aller voir les chefs de l'État, parce que nous savons tous que ces ministres-là, et même le Premier ministre, ne trouvent pas beaucoup de solutions pour le Congolais. Comme ils n'en trouvent pas, Non. Ce n'est pas un débat contre l'État, sinon j'allais vous demander, citez-moi deux cas où le gouvernement trouvait des solutions, pour problème surtout ceux de Congolais. Non, absolument pas.
Et vous pensez que seul le chef de l'État peut trouver facilement des solutions?
Malheureusement, ils ne trouvent pas de solutions. Pourquoi? Je vous rappelle qu'on est au mois de juillet, d'ici quelques 11-12 mois par là, ce sera l'application du CIMIL. Vous le savez, si vous l'avez oublié, on va voir d'ici le mois d'août si le gouvernement sera capable de donner aux Congolais 1500 francs congolais de salaire de base minimum. C'est terrible. Qu'est-ce qui se passe dans ce pays? Aujourd'hui, on est au mois de juillet.
L'administration publique est régie par les CIMIL ou plutôt par les accords de Mboudi?
Vous parlez de Mboudi, mais Mboudi, c'est encore grave. Moi, je parle tout simplement du CIMIL qui ne sera pas appliqué d'ici 10 jours.
Comment le savez-vous?
Non, je le sais à partir des paramètres macroéconomiques. Le budget de la République pour 2008 est déjà consommé près de 80%. Aujourd'hui là. Et où est-ce qu'on aura l'argent pour faire autre chose? Vous savez que Sarkozy n'a pas donné grand-chose, donc nos syndicalistes ne doivent pas trop rêver. On aura
fait. Il a donné quelque chose, Sarkozy.
Il n'a rien donné, absolument rien. Il n'a même pas donné quelque chose. Je parle de 80% que nous avons consommé. Il fallait des apports extérieurs, notamment du FMI, de la Banque mondiale, pour que nous puissions avoir quelque chose. Or, ces apports-là ne viendront pas. Donc moi, je dis, je ne suis pas un jeu de mauvais augure, mais j'estime qu'on aura beaucoup de problèmes, surtout au mois
septembre avec la rentrée scolaire, comme on a parlé avec Jean-Bosco Pouna, je crois qu'on aura des problèmes.
Oui, justement, je voulais rebondir par rapport à cette rentrée scolaire qui va intervenir d'ici près d'un mois. Claudine, est-ce que ça ne vous inquiète pas que les fonctionnaires, les syndicalistes introduisent une pétition à quelques jours de la rentrée scolaire, disons à près d'un mois et demi de la rentrée scolaire, est-ce que ça ne vous inquiète pas?
Tu sais qu'il y a à boire et à manger dans le monde syndical congolais.
C'est-à-dire?
Dans l'administration publique.
Parlez devant les micros.
Dans l'administration publique, vous avez plus de 400 syndicats.
Ah bon?
Ah oui, plus de 400 syndicats. Et dans les 450, les 425, je crois, ils se sont réunis, à ce que je sache, il y a eu 10 plateformes dont le modérateur est M. Kibiswa, que je cite. Et maintenant, il y a un autre syndicat qui s'est réveillé, qui sont les indépendants, et ils sont plus de 40. Je ne sais pas si finalement le gouvernement va négocier avec qui.
Mais est-ce que les problèmes posés ne sont pas fondés? La non-uniformisation des salaires, la non-application, la non-prise en compte de l'amélioration salariale qui avait été promise par le gouvernement dans le cadre du budget 2007 et 2008, notamment.
Justement, vous savez qu'il y a eu des missions syndicales avec le gouvernement pour aller vérifier dans toutes les provinces où va l'argent de l'État. Et ces missions n'ont pas encore déposé leur rapport. Mais il y a une autre plateforme qui se réveille pour aller déposer une pétition auprès du président de la République. Terminons d'abord avec le problème qui a été posé, que les plateformes déposent les rapports, qu'on sait ce qui est fait. Parce qu'il paraît qu'ils ont quand même ramené beaucoup d'argent et on peut répartir cet argent pour peut-être payer les premiers paliers des MOUD. Maintenant, il y a une pétition qu'on va déposer. Je ne sais pas. On va négocier avec qui et qu'est-ce qu'on revendique au finish.
Hier, j'ai parlé avec M. Jean Bosco Pouna du syndicat qui m'a dit que les différences salariales sont quand même à déplorer parce qu'il y a qu'une chose, par exemple, le dernier, disons, le huissier, celui qui occupe l'échelon le plus bas à la fonction publique, touche plus qu'un enseignant du secondaire à l'intérieur du pays. Vous qui êtes à l'intérieur du pays, justement, Romain-André Kambala, comment vous interprétez ces pétitions des syndicats de la fonction publique?
Oui, les syndicalistes ont totalement raison. Nous n'allons pas voir aujourd'hui, comme l'a dit la consoeur, que les syndicats sont... Les délégations syndicales sont été envoyées, différentes commissions dans les provinces pour travailler et ramener, et puis aujourd'hui, si on dépose, non, c'est pas vrai, ça. Il faut peut-être rentrer dans l'histoire. L'histoire du Boudi date, la convention a été signée au mois de février 2004. Aujourd'hui, nous sommes au mois de juillet 2008. Est-ce qu'il faut toujours parler de non-application des accords du Boudi et vouloir défendre qu'il y a la volonté du gouvernement qui veut faire pétition, qui a envoyé des missions pour contrôler et rapporter tel et voir comment est-ce qu'on peut payer le premier palier? Non, ça c'est du bluff. Ce qu'on peut conclure ici, c'est quoi? Il y a eu manque de volonté politique dans le chef du gouvernement à concrétiser ses promesses. C'est le gouvernement qui a signé avec son même syndicat. Qu'on dise qu'il y a 400 syndicats, qu'on dise qu'il y a un seul syndicat qui... Oui, 400, tout ça. Est-ce que avec ce qu'on a négocié avec les 400, est-ce que ça a été déjà accompli pour qu'on dise aujourd'hui qu'un indépendant qui se soulève demain matin, qui va déposer la pétition?
Mais est-ce que le gouvernement n'est pas aussi confronté à un manque de moyens financiers?
Je ne pense pas. Si vous allez vous rendre compte de tout ce qui s'est passé pendant la période électorale jusqu'à la fin ici, il y a trop de cadeaux qu'on a dû faire par l'un ou l'autre.
Merci beaucoup Romain. Rapidement Thierry, vous vouliez ajouter, il n'y a pas un manque de moyens?
Non, absolument pas. Il y a des choses qui se passent dans ce pays scandaleux. Je ne vais pas citer les noms de ces messieurs membres du gouvernement. On parle d'un ministre qui posséderait 7 jeeps à lui seul.
On ne sait pas le
bon, sans parler au conditionnel.
Oui, Claudine, bon, moins 30 secondes.
Le gouvernement est confronté au problème. Le gouvernement est confronté au problème des moyens. Et c'est pourquoi il a associé les autres plateformes syndicales pour qu'on puisse chercher ensemble ces moyens-là et appliquer la
force. Les moyens sont là.
Nous continuons d'abord le processus. Qu'est-ce qu'ils étaient en mission, nous disent, qu'est-ce qu'ils ont ramené, et on va mettre
prendre le gouvernement devant ses responsabilités.
Merci, donc c'est avec vous, Claudine, que nous terminons cette tribune de la presse. Merci également à vous, à Thierry Lebeka, à Romain Kambala-Bilolo, ainsi qu'à toute l'équipe de Dialogue entre Congolais, Jean-Claude Toumba-Kamanga, à réaliser cette émission. Guy Roger Nyampala, Guy Maté et Kiki Mpoutou ont participé à la préparation de cette émission. Merci à William Lundamba qui l'a mise en onde. À nos auditeurs, également, je dis merci et bon week-end. Thank you.